Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. C'est le mardi 2 juin 2026. 2 juin ou 2 juin? Qu'est-ce que vous dites, vous, Mathieu? Juin ou juin?
En tout cas, je ne dis pas à où, ça c'est certain.
J'espère bien.
Non, je veux dire juin.
Oui, juin. On dit ça au Québec en général, là, mais oui. Dans l'ensemble. Alors, c'est le mois de juin déjà. L'été s'en vient à grands pas.
Et les fraises.
Oui. Ah oui, les fraises. Et les framboises.
Ah, du bon vin, j'en ai bu.
On est en feu ce matin. Alors, je suis bien contente de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, au menu, plusieurs choses. Vous le savez sans doute, la 30e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées s'est ouverte le 1er, donc hier, 1er juin. Et ça se poursuit jusqu'au 7 juin. On aura l'occasion d'en parler avec une des co-porte-parole de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et j'ai nommé Rosalie Taillefer-Simard, qui sera avec nous autour de 10h15. La chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qui, elle, a lu « L'adieu au bateau » de Joanne Fournier et « Le printemps en novembre » de Carl Leblanc. Nous aurons également une entrevue avec la chorégraphe et directrice artistique Alexandra Spicy Landé, qui offre un spectacle dans le cadre du Festival Transamérique. Et son spectacle s'intitule « Deux par deux ». Et puis la chronique économie avec Michel Poitvin, qui nous parlera de Poste Canada. Là-dessus, on y va avec une première chanson, Daniel Bélanger, Les temps fous, tirée de son album Quatre saisons dans le désordre. C'est bien ça, hein? J'ai peur d'avoir les mots dans le désordre. Et cet album célèbre ses 30 ans cette année. 30 ans, ça se peut pas. Oui? OK, on va vérifier, puis on va écouter la chanson, on va la savourer. Bonne journée.
C'est en fou, une chanson de Daniel Bélanger.
Eh oui, sortie le 28 mai 1996, Quatre saisons dans le désordre, et bel et bien sortie il y a 30 ans. Ça va vite. Et puis, comme vous le disiez si bien, Mathieu, cette chanson, et je pense bien à toutes les chansons de cet album, n'ont pas vieilli d'une ride. Le Hezbollah accepte un plan de cessation mutuelle des attaques avec Israël. Une photo à la une du Devoir papier. Un jeune garçon regardait lundi d'une salle endommagée de l'hôpital Jabal Amel à Tyr les dégâts causés par des bombes israéliennes. Un bâtiment situé juste à côté de l'hôpital a été détruit et plusieurs personnes ont été blessées dans ces frappes, selon l'Agence nationale d'information et le ministère de la Santé libanais. Plus tard dans la journée, les autorités libanaises ont annoncé que le Hezbollah avait accepté une proposition américaine de cessation mutuelle des attaques avec Israël après que Donald Trump a affirmé que les deux camps lui avaient promis l'apaisement au Liban. À la veille de négociations israélo-libanaises à Washington, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pour sa part déclaré avoir dit au président américain que l'armée frapperait Beyrouth en cas de tir du Hezbollah contre des cibles israéliennes. Dans le même temps, l'armée continuera à opérer comme prévu dans le sud du Liban, a-t-il affirmé. L'école Irénée Lucier déborde déjà, c'est toujours à la une du Devoir, la hausse du nombre d'élèves dans l'établissement spécialisé ouvert en 2023 inquiète parents et enseignants dans l'Est de Montréal. C'est un texte de Zachary Goudreau. 272, c'est le nombre d'élèves que l'école pourrait accueillir à la rentrée prochaine, d'après une prévision émanant de la direction. Elle en accueillait 227 en 2023. Les enseignants et les parents d'élèves d'une école spécialisée de l'Est de Montréal, inaugurée il y a moins de 3 ans, sont inquiets. Le nombre d'élèves augmente rapidement dans cet établissement au point de dépasser sa capacité d'accueil. Et puis, toujours à la une du Devoir, YOLO contre MAGA. You only live once, on ne vit qu'une fois, est devenu le cri de ralliement d'élus républicains qui n'ont plus rien à perdre face à Trump. Si on se tourne vers le Journal de Montréal maintenant, on parle des arbres. Il promettait d'en planter 2 milliards des arbres de Trudeau broyés. Les 2 milliards d'arbres promis par Justin Trudeau pour lutter contre les changements climatiques ne finiront pas tous en forêt. Certains sont même destinés à être transformés en copeaux 3 ans après avoir été plantés en Abitibi. Et puis, il y a Félix, un rêve d'enfant. Félix Auger Aliassime réalise une grande première. Pour la première fois de sa carrière, Félix Auger Aliassime est parmi les 8 derniers joueurs toujours en lice à Roland-Garros, le tournoi du Grand Chelem, qui historiquement lui a le moins souri. Dominant hier, le Québécois a confirmé sa montée en puissance après des premiers matchs plus difficiles dans la ville Lumière. Pour cette grande première, Auger Aliassime retrouvera demain le dangereux Flavio Cobolli, 10e tête de série et 14e mondial, l'un des joueurs en forme depuis le début de la quinzaine. Brendan Gallagher, le guerrier s'en va, c'est toujours à la une du Journal de Montréal. C'est la fin pour Gallagher ou Gallagher. Quand Brendan Gallagher s'est présenté devant les médias montréalais hier, il savait que c'était pour la dernière fois et l'émotion était à son comble. Texte de Dave Lévesque. Habituellement assez stoïque et calme, le fougueux ailier a commencé à étouffer des sanglots dès la deuxième question. Il a pris un moment et s'est excusé, ce qui n'était vraiment pas nécessaire. Puis il s'est retiré durant une minute, histoire de se ressaisir. J'ai pensé à ma mère et comment mes coéquipiers m'ont soutenu à travers cette épreuve. Je suis encore émotif quand je parle d'elle, sa mère qui est décédée l'an dernier d'un cancer du cerveau. J'ai vécu des moments difficiles et les gars se sont ralliés derrière moi. C'est un des plus grands moments de fierté que j'ai vécu. Elle était tellement fière de me voir être un Canadien de Montréal. Laissé de côté en fin de saison et pendant les 2 dernières séries de l'équipe, Gallagher savait que ses jours à Montréal étaient compliqués. C'est ma décision, mais elle m'a un peu été imposée. J'aimerais rester ici et faire partie de ce groupe, mais je veux avoir une occasion de contribuer et les choses ne changeront pas pour moi ici. Il a 34 ans, Brendan Gallagher. Et puis à la une de la presse plus, location illégale à Montréal, une tape sur
pardon,
une tape sur les doigts. La plateforme de location Airbnb, qui affiche toujours des centaines de logements sans permis, a reçu une amende de 15 000 $. C'est peu, dénoncent des locataires qui respectent les règles. Des jeux gonflables qui peuvent vite s'envoler, drame à la salle. Toute la communauté est ébranlée au lendemain d'un drame inusité dans un quartier résidentiel de la salle, un jeu gonflable dans lequel se trouvaient adultes et enfants. S'est envolé de plusieurs mètres dans les airs lors d'une bourrasque et a fait 6 blessés. Lundi, en début de soirée, la température est parfaite, le ciel est dégagé, il fait une vingtaine de degrés, des adolescents jouent au tennis et au basketball, puis des enfants se promènent à vélo avec leurs parents. Sans les restes du jeu gonflable, rouge, qui gisent sur le sol, on aurait cru à un banal soir de juin, mais 24 heures plus tôt, la scène était tout autre au parc Ouellet, situé dans l'arrondissement de La Salle à Montréal. 6 individus, 4 adultes et 2 enfants, ont été blessés et transportés en centre hospitalier, confirme Urgence Santé. Parmi eux, une fillette de 3 ans repose dans un état critique, selon les dernières informations. Et puis, Mike Ward au Centre Bell, ça s'est passé le week-end dernier, la fièvre du balado dans les coulisses d'une édition grand public de Sous-écoute. Il y avait du monde à Metz, si vous me permettez l'expression. Quelques 10 500 personnes réunies pour un podcast. Dominique Tardif qui se pose cette question, qui pose la question, c'est beaucoup. Et c'est pourtant ce qui s'est produit samedi dernier au Centre Bell. La presse a été accueillie dans les coulisses de l'enregistrement de 2 épisodes de la populaire série balado de Mike Ward. Et Mike Ward lui-même n'en revient pas. Il a eu même des problèmes, disons, gastriques, pour parler gentiment, poliment. Et puis, pardon, bilan du Canadien, les adieux de Gallagher. J'ai essayé de tout donner chaque soir. C'est Gallagher qui dit ça. Et je pensais trop. C'est Montembeau qui n'a pas dit son dernier mot, gardien de but qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le 11 mars dernier, Samuel Montembeau a reçu un appel qu'aucun gardien ne veut recevoir. Il n'était pas échangé puisque la date limite des transactions était passée depuis quelques jours. Il apprenait plutôt de la bouche de son directeur général que l'organisation venait de rappeler Jacob Fowler du Rocket de Laval, ce qui le reléguait jusqu'à nouvel ordre au statut de troisième gardien. La chorégraphe et directrice artistique Alexandra Spicy Landé, figure majeure du hip-hop et du street dance au Québec, est avec nous pour parler de son projet 2x2 présenté dans le cadre du Festival Transamérique. Le spectacle sera présenté à partir du 6 juin et ce jusqu'au 10 juin à Espace Go. Alors, elle est avec nous au bout du fil. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Est-ce que je vous appelle Alexandra ou Spicy?
Spicy.
Ça donne un petit spunk le matin. Je pense que Spicy, ça marche bien.
OK. Alors, allons-y avec Spicy. Oui. Donc, Spicy 2x2, c'est quoi exactement?
Donc, 2x2, c'est une création qui met en lumière un peu les dynamiques relationnelles. Donc, ça parle de la relation, les dynamiques qui se créent entre deux personnes, selon les types de dynamiques de personnes, hein, puis de relations. Puis, à travers ça, il y a comme une espèce de... Il y a une performance, vraiment, c'est performatif, c'est aussi théâtral, puis ça parle vraiment de l'épuisement un peu, mais aussi de tous les hauts et bas des relations, à travers le corps et la danse.
Et à quel moment vous avez senti que ce thème-là avait le potentiel de devenir une œuvre chorégraphique?
C'est une très bonne question. Écoutez, je viens de faire un duo, justement, Monade, que j'ai créé en 2024, qui a été présenté avec Densité. Et à travers ce duo-là, il y a quelque chose qui, on est pris ensemble sur la scène pendant 70 minutes. Il y a quelque chose qui se développe. On est proche aussi. C'est un très bon ami avec qui je fais cette pièce-là, Johnny Tai. Il y avait quelque chose là-dedans qui m'intéressait. Ma relation était en épuisement aussi. On parle des vraies choses, là.
Ouais.
Donc, il y avait beaucoup de trucs qui piquaient ma curiosité sur comment on vit nos relations, surtout qu'on arrive à un bout de souffle ou quand on a tout essayé. Donc, il y avait quelque chose là-dedans qui m'intéressait.
Quand vous dites on a tout essayé dans une relation qui est quoi? Toxique, puis qui nous épuise, est-ce que c'est ce qui se trame derrière la proposition?
Oui, parce que, tu sais, à travers les duos, parce que vous savez que c'est comme un travail à deux angles. On a les duos qui dansent ensemble, donc on a 5 paires de duos, et il y a un travail de groupe aussi avec ces duos-là. Fait que
ouais.
C'est quasiment comme si j'avais fait 6 chorégraphies. On y pense, on le voit ça comme ça. Puis à travers chaque duo, on sent les dynamiques. Il y en a qui sont vraiment toxiques. On le voit, on le sent dans la façon qu'ils approchent la performance. On voit que certains, ça prend du temps avant d'arriver au bout de souffle. On le voit pas, ça a l'air heureux pendant très longtemps. Fait qu'à travers la pièce, j'ai travaillé différentes façons d'approcher les relations. Puis je regardais vraiment le big scope. Là, je regardais pas juste les relations amoureuses. Je regardais les relations BFF, frenemy. Mm-hmm. Je regardais les relations frères, deux frères. Je regardais des relations comme, tu sais, des dynamiques qui sont pas, qui sont très quotidiennes, mais qu'en réalité, ça cache beaucoup, beaucoup de
non-dits.
De non-dits, d'inconfort, puis de beaucoup de moments heureux aussi.
Fait que, ah bon?
La pièce invite aussi à la fête. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qui
oui.
On a un parti de famille.
C'est pas tout noir ou tout blanc, là.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Et Spicy, dans votre spectacle, vous évoquez l'histoire de vos parents qui sont arrivés d'Haïti au Québec.
Oui, tout à fait. J'aime ça raconter cette histoire-là parce que je me suis juste rendu compte, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte, mes parents sont arrivés le 25 décembre.
Ah oui, le jour de Noël. Décembre. En quelle année?
Le jour de Noël, en 1976. Avec moi, j'avais 9 mois. Puis ils sont arrivés, il neigeait, c'est la première fois qu'ils voyaient la neige. Tu sais, c'est comme une histoire un peu, ça a l'air d'une histoire super romantique.
Oui.
En même temps, c'était, tu sais, ils ont laissé 3 enfants en Haïti.
Soit pourquoi?
Ensemble avec moi. Parce que ils devaient s'établir en premier, trouver un travail, trouver un endroit où rester. Tu sais, comme tous les déboires des immigrants qui arrivent au Québec. Tout le travail de s'établir, de créer une place, d'essayer de trouver un meilleur pour ses enfants, tu sais, c'était ça l'idée vraiment, tu sais. Donc, ouais.
Alors, il y a deux danseurs qui interprètent vos parents?
Bon, écoutez, je peux pas vous donner tous les secrets de la pièce, mais on peut supposer qu'il y a deux interprètes qui représentent un peu mes parents.
OK. Et est-ce que vos parents sont dans la salle?
Mon père va y être. Ma mère, malheureusement, est décédée en 2017.
Ah oui. Bon, oui. Ben alors, c'est triste, mais elle sera avec vous d'une autre façon.
Oui.
Oui.
Je pense que c'est quelque chose de... Pour moi, tu sais, j'ai passé à travers beaucoup de moments de deuil dans ma vie. Et, tu sais, je crois vraiment que, tu sais, ma mère est toujours là avec moi. Puis, tu sais, j'ai l'impression que dans toutes mes histoires, il y a une petite pièce, il y a un petit reflet vers elle. Tu sais, c'est comme toutes les pièces à un moment qui parle un peu de notre relation ou d'elle, ou tu sais, comme fait que elle reste toujours avec moi.
Oui.
C'est une belle chose.
Est-ce qu'elle vous a au moins vu dans quelques spectacles? Est-ce qu'elle a vu vos œuvres sur scène?
Elle a pas vu mes œuvres comme qu'elles sont. Elle a vu actually ma première œuvre. Elle a vu ma première œuvre. C'est vrai. Elle était venue voir ma première œuvre. Puis la semaine passée, justement, c'était le 19e anniversaire de son décès. Donc, il y a comme beaucoup d'émotions aussi en même temps dans l'air.
J'imagine.
Oui, le travail qu'on fait, c'est de l'art vivant. T'sais. On est toujours connecté à nos émotions. Puis, c'est quelque chose.
Alexandra Spicy Landé. Est-ce qu'on dit Landé?
Mm-hmm.
Oui.
Vous le dites tellement bien.
Bon, bien, tant mieux. Ça me fait plaisir. Oui. J'essaie. là, vous parliez de 5 couples sur la scène. Qui mm-hmm. sont ces danseurs, danseuses, ces interprètes?
Donc, c'est cinq duos hommes-femmes, hommes-hommes, femmes-femmes. C'est des danseurs vraiment exceptionnels de la scène du street dance de Montréal, particulièrement des danseurs de danse hip-hop, qui ça fait au moins en moyenne une dizaine d'années qu'ils sont en train de travailler, des professionnels du milieu de la danse. Et ils occupent toutes sortes de rôles dans la... Tu sais, il y en a qui organisent des festivals, ils ont toutes sortes de rôles en dehors du travail.
Ouais.
Puis quand ils viennent dans le travail, il y a comme quelque chose, il y a une pulsion, il y a une force énergétique de groupe, comme une espèce de magie qui se crée parce qu'ils sont tous vraiment des individuels en même temps. Fait que j'aime beaucoup travailler avec la personne aussi, donc l'individuel, puis j'aime qu'ils amènent de eux dans le travail. Fait que ça, c'est une chose que je leur demande.
Et Spicy, 5 duos, ça veut dire 10 personnes à diriger. Vous faites confiance à vos interprètes, ils ont du talent, vous venez d'en parler avec beaucoup d'éloquence. Mais est-ce que c'est quand même un défi de voir à ce que tous les interprètes soient dans la même énergie, la même danse?
Écoute, je vous cache, vous savez, on dirait que vous, c'est où que vous êtes dans la pièce des fois, je sais pas comment vous avez une boule de cristal, mais oui, c'est énorme le travail, c'est beaucoup de défis parce que justement, parce que je leur demande d'amener une partie d'eux-mêmes, il y a quelque chose là-dedans aussi. C'est comme ils sont confrontés au travail, mais en même temps challengés. Puis c'est vraiment un travail qui demande énormément, pas nécessairement juste la physicalité, c'est très virtuose, mais aussi c'est très...
Faut s'abandonner.
Faut vouloir être généreux, faut vouloir être ensemble. Et ça, c'est le vrai défi de cette pièce. Parce qu'ils sont pris avec quelqu'un pendant 1h10.
Quand vous dites pris avec quelqu'un, là, ils sont vraiment pris, parce que ça sonne un peu négatif, là. Hey, je suis poignée avec elle ou avec lui.
Mais non, parce que tout ça, c'est comme toutes nos relations. On dit poignée, mais en réalité, tu sais, par exemple, je sais pas, tu sais, moi, je pense à mes frères, tu sais, mais mes frères, on est en relation, on parle tout le temps, tu sais, on a des parties de famille. Je veux dire, on est pris parce qu'on n'a pas choisi.
Oui, je comprends.
Oui. Donc, on est pris, mais c'est des belles choses, comme des choses moins fun, des fois.
Oui, c'est pas un long fleuve tranquille.
Non, exactement. Il y a quelque chose, tu sais, c'est comme quand même très dynamique, très énergétique, puis très positif à des moments, mais on sent aussi des fois l'épuisement, on sent un peu la toxicité selon les duos. Tu sais, il y a comme quelque chose qui se travaille à travers la pièce.
J'imagine que l'improvisation fait partie de votre création.
Oui, tout à fait. Les danseurs street dance, c'est vraiment une pratique qui est différente de la danse contemporaine pour ces raisons-là. C'est que souvent, les danseurs, quand ils commencent la pratique, on les encourage immédiatement à rentrer dans l'improvisation. On leur explique que ça fait vraiment partie de la culture de cette danse-là. Donc, leur premier but, c'est pas de venir travailler pour un chorégraphe. C'est pas dans leurs ambitions quand ils commencent le hip-hop. Il y en a que oui, mais souvent, c'est de s'améliorer en tant que danseur qui fait de l'improvisation, puis d'aller faire des battles, tu sais, de faire, tu sais, comme carrière, tu sais, comme vraiment solo. Fait que les amener dans mon univers, c'est tout un travail aussi, tu sais, de leur faire comprendre un petit peu c'est quoi le travail du chorégraphe. Il y a toute cette... tu sais, j'ai des enfants qui sont avec moi depuis 10 ans, donc ils comprennent bien cette dynamique. Mais j'ai des nouveaux danseurs aussi qui sont arrivés il y a 1 an et demi, 2 ans, puis qui sont comme « Oh my God! » C'est comme... C'est tellement à gauche. Tu sais, comme c'est tellement qu'est-ce que je fais, puis c'est tellement qu'est-ce que je fais pas.
Oui, et puis ça peut être, ça peut faire peur.
Oui, ça fait peur. Ça l'a pressé beaucoup, surtout les nouveaux.
Et parlez-nous de l'importance de la musique dans ce spectacle-ci, le 2x2. Je pense que vous travaillez avec une personne de laquelle vous êtes très proche depuis quand même quelques années.
Oui, je travaille avec Chachou. Donc, Chachou, c'est un compositeur exceptionnel de Montréal qui a travaillé avec beaucoup d'artistes hip-hop de Montréal aussi, qui fait de la composition, pas juste en hip-hop, mais dans tous les genres de musique. Vraiment, il est hyper talentueux. Puis nous, on a une relation qui dure presque, je pense que ça fait presque 20 ans.
Ah oui, un beau duo?
Ah oui, c'est un beau duo, exactement. Fait que c'est un beau duo. Puis c'est tellement bien, comme vous le dites, parce que c'est vrai que tous mes collaborateurs... J'ai des relations vraiment, vraiment tissées serrées dans le travail.
C'est important.
C'est super important. Laetitia, qui ça fait, je pense, sa 4e production avec moi. Pax, qui est la coach et training, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Fait que je crois vraiment aux relations longues.
Oui.
Et ça témoigne de ça aussi. Puis Chachou, justement, c'est une des relations parce qu'il comprend mon travail.
Chachou, Richard Chachou Saint-Aubin, et je parlais avec Alexandra Spicy-Landé. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite des salles pleines, 2x2 à l'Espace Go du 6 au 10 juin au FTA. Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'ai commencé mon aventure dans une ville catacombe, parmi les bruits, les grands fantômes, je me suis mise à écouter la pluie. J'ai trouvé des rires, des grands amis, puis Mossad, je me suis envolée dans une caravane. Des musiciens gypsies partis à l'aube vers les grandes vallées. Pierre qui roule, pierre qui tombe, pierre qui brille comme des souvenirs sur la route. Une vieille église à tes salons transformée. Tous m'accueillent, guérissent mes pleurs, éclipse mes malheurs. Village suivant, 103 habitants, à Val-Marie, dans leur plaine d'Orican. On se trouve toujours entre amis. Pierre qui roule, pierre qui tombe, pierre qui brille comme des souvenirs sur la route. Pétrole. On les croyait tous savoir, mais moi j'ai rencontré la famille de Tom. Dans son garage, il a construit un bar Duke Joint. Tous les samedis, entre voisins, ils se rassemblent pour écouter des belles musiques. Même je leur chantais en français. Ils m'ont dit de toucher mademoiselle. Pierre qui roule, pierre qui tombe, ma mémoire, je les peins dans les nuages, belles images dans une valise. Tous ces cœurs vagabonds, tous ces cœurs vagabonds.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et Michel Potvin, notre chroniqueur économie. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Michel, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, Michel, une manchette qui retient l'attention, on en parle depuis hier, c'est que la grève à Poste Canada s'est terminée, enfin, diront certains, certaines.
Ben oui, le 30 mai, samedi dernier, les travailleurs ont voté une forte majorité pour accepter les offres patronales. Il y a 55 000 employés à Poste Canada qui sont divisés en deux unités à cause de la nature des tâches. Donc, il y a une unité urbaine, donc ce sont les facteurs et les factrices qui agissent dans les villes, puis il y a une unité rurale et suburbaine, donc dans les banlieues. Donc, chacune des unités, là, urbaines à 86 % puis rurales à 89 % en faveur des offres patronales. Quelles sont ces offres? C'est une entente de 5 ans, mais rétroactive en 2024. Là, le conflit avait commencé en 2024 suite à l'échéance de la dernière convention collective. Donc, ce qu'on sait, les deux premières années, des augmentations de salaire sont de 6,5 % pour l'année 1 et 3 % pour l'année 2. Puis ça, ça correspond en fait à 2024 et 2025. Donc, ça va être la rétroactivité qui va être versée aux employés. Puis on n'a pas d'informations, il doit y avoir des clauses rattachées à l'inflation pour les années jusqu'en 2029. Ça peut sembler beaucoup, ces augmentations-là. Puis effectivement, je suis allé voir le taux d'inflation. En 2024, il était 2,4 % puis les employés obtiennent 6,5 puis en 2025, 2,1 % l'inflation au Canada, puis ils ont obtenu 3 % Donc, on comprend leur enthousiasme à accepter ces offres. Je pense que c'était des bonnes offres pour les employés. Donc, ils sont évidemment contents, mais c'est pas juste eux qui sont contents. Là. D'une part, ça réduit l'incertitude là, face au service postal. Puis peut-être que nous, on s'en sert moins, mais par exemple, il y a beaucoup de PME à travers le Canada, qui sont très contents de la fin du conflit. Les PME utilisent beaucoup la poste pour envoyer du matériel, soit du matériel promotionnel, là, les fameux dans les publicsacs, et envoyer évidemment des colis à leurs clients un peu partout au pays. Donc,
mais ça a été un long conflit, hein, Michel. Moi, je pensais que c'était réglé. C'est bizarre, là.
Ben oui, parce qu'on entendait moins parler, effectivement. À un moment donné, à la fin 2025, ça avait fait les manchettes, il y avait eu des grèves, mais là, on entendait moins parler. C'est deux ans que ça dure, là. La convention collective était venue à échéance en janvier 24. Puis le gros de l'enjeu, il y avait deux enjeux principaux, les salaires puis les changements structurels entourant le service de Poste Canada. Puis ça, on avait déjà parlé, je pense, dans une chronique à l'époque. Donc, la société d'État fait des pertes. Là. Poste Canada, par exemple, là, pour le premier trimestre de 26, des pertes de 205 millions de dollars. L'an dernier, c'était 1,57 milliards pour toute l'année. Donc, ces pertes-là importantes nous suggèrent le service, est-ce qu'il est encore pertinent ou est-ce qu'on l'assure de la bonne façon? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc, ça, c'était un enjeu majeur. Puis, ce qu'on lit dans les journaux, là, on est relativement silencieux sur s'il y a eu des discussions, des règlements sur les changements structurels. On a de l'information sur les salaires, mais pas sur ce second enjeu. Il y a une baisse, on avait parlé, il y a une baisse importante du courrier à domicile. Et ce que Poste Canada veut faire, c'est réduire la fréquence de livraison au lieu de passer à tous les jours, peut-être passer deux fois par semaine, implanter plus de boîtes communautaires, là, ces fameuses boîtes où il faut aller chercher notre courrier plutôt que l'avoir
à notre porte.
Et réduire le nombre de bureaux de poste également. Là. Donc ça a un impact évidemment sur l'emploi. Alors, c'était une des raisons pourquoi le syndicat a réagi. C'est un enjeu majeur parce que ces pertes-là, c'est qui éponge ces pertes-là? Bien, c'est vous et moi avec nos impôts, c'est le gouvernement canadien. Puis avec l'état des finances publiques, est-ce qu'on peut encore se permettre là, de mettre autant d'argent dans le service postal? Je pense qu'en partie, il va y avoir certainement qu'il y a des changements qui vont venir. En partie, on va probablement procéder par attrition parce que le Canada s'attend à perdre jusqu'à 30 000 employés d'ici 2030 sur les 55 000. Puis ça, c'est juste en raison ou au cours de la prochaine décennie, pardon, pas 2030, peut-être 2035. Départ, ça serait suite à des départs à la retraite ou des départs volontaires. Alors ça, si on peut faire ça par attrition, c'est sûr que ça crée moins de conflits avec les syndicats. Mais en même temps, les syndicats aiment ça maintenir une certaine masse critique là, de leur du nombre d'employés. Alors, il faudra voir là, comment ça va se passer dans les prochaines années. Mais c'est clair qu'on a besoin de restructuration parce que ça coûte énormément cher. Puis, on s'en sert. Une des raisons pourquoi on fait des pertes, c'est que les gens s'en servent de moins en moins. Là.
Bon, alors, 85 % c'est ce que je lis dans le Devoir, c'est la proportion des quelques 55 000 employés de Poste Canada qui ont donné le feu vert à une nouvelle convention collective.
Oui. Je ne sais pas si on a tous voté. Je n'ai pas trouvé le taux de participation, mais je suis sûr qu'il y en a une grande proportion qui sont prononcées puis qui ont voté et parmi ceux-là fortement en faveur, là, au-delà de 85
oui.
En faveur.
Là. Environ 60 du conseil exécutif du syndicat a approuvé la convention collective proposée.
C'est une bonne nouvelle parce que je pense, si je me souviens bien, à l'automne, les employés avaient accepté quelque chose, mais le conseil syndical l'avait rejeté, ou le contraire. Là. Je pense que le conseil syndical avait accepté, puis les employés avaient voté contre. Alors, si les deux s'alignent, c'est une bonne nouvelle, le conflit devrait se terminer.
Oui, on aime ça, les bonnes nouvelles, et on va suivre la situation quand même, parce que rien n'est gagné. Et puis, vous vouliez nous parler, Michel, il reste quelques minutes, peut-être, du prix de l'essence au Costco et aussi des salles de cinéma là, qui au Québec, là, il y a une baisse d'achalandage.
Oui. Peut-être rapidement Costco, puis le cinéma, on pourra en reparler là, la semaine prochaine.
Je vais vous dire ça. Là, ça va dépendre des minutes qui nous restent. On a à peu près 3-4 minutes.
OK, ben pour le Costco, on se demande, il y avait une chronique qui nous demandait, on se demandait pourquoi l'essence chez Costco est si ben, le prix de l'essence est si faible. Là. Des fois, ça peut aller jusqu'à 20 sous en dessous du prix du marché. Puis ce qui arrive, c'est que le modèle d'affaires de Costco est basé sur, ou toute la rentabilité de Costco est basée sur les cartes de membres.
Oui, c'est ça, Costco, faut être membre pour en profiter, là.
Faut être membre. Alors, Costco, ils soucient moins de faire de l'argent, par exemple, sur l'essence. Ils peuvent vraiment vendre au prix coûtant, ou même avec une légère perte. Puis ça n'affectera pas leur rentabilité. Pourquoi? Parce qu'avec leur carte de membre, ils vont chercher énormément de profits. Puis si l'essence est faible, ils vont attirer plus de membres. Alors, le modèle d'affaires de Costco est tel que pour des biens comme l'essence, ben ils peuvent avoir des prix très, très faibles, puis ils récupèrent les 6 pertes qu'il y a l'essence, par exemple, par les abonnements supplémentaires qui vont aller chercher.
Oui, oui. Finalement, c'est pas un cadeau qu'ils font aux consommateurs.
Ben c'est ça. Et Costco... Ce modèle d'affaires intéressant, c'est ça. Ils font de l'argent. J'avais un ami qui travaillait chez Costco et puis c'est ce qu'il me disait. Il disait, en gros, nous, nos profits, c'est les cartes de membres. Là, parce que quand on va au Costco, tous les items dans le magasin sont pas chers. Ils ont peu de marge là-dessus. Par contre, ils se rattrapent avec les cartes de membres.
Et l'achalandage en baisse dans les cinémas, c'est une triste nouvelle, mais en même temps, c'est pas très surprenant. Mais il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de films québécois qui ont été à l'affiche, je crois, cette année.
Oui, je pense que là, j'avais lu l'article vite. La baisse de l'achalandage, c'est 15 % par rapport à 2025, puis 39 % par rapport à 2019. Je pense que les habitudes des gens, hein, probablement on est tous un peu coupables. Là, on écoute plus excusez l'anglicisme en streaming, là, ou en
les plateformes.
sur les plateformes, ça peut être les plateformes québécoises comme Illico ou Tout TV, ou bien Netflix, Amazon, etc. On sort moins pour aller au cinéma, à moins que ça soit un gros film attendu. Puis je pense que les films québécois, je disais, représentent 9 % de l'assistance à peu près. Puis en 2025, je pense que c'est Menteuse d'Émile Gaudreau, je disais, qui a réussi à dépasser les chiffres de 2024 en termes d'achalandage.
Oui, c'est le seul qui a réussi à dépasser les chiffres de 2024 pendant la même période.
Exactement. Par contre, il y a d'autres films, les gros blockbusters américains, là, un film Minecraft, et puis je pense qu'il y en avait Avatar aussi. Là. Quand il y a des événements comme ça, les gens veulent voir ces films-là sur
grand écran.
Sinon, on reste là, tranquillement.
Ouais.
Là, oh, malheureusement, je suis d'accord avec vous, là, mais on est tous un peu coupables. Je vois, moi, le premier, j'adorais aller au cinéma, puis on dirait que j'y vais moins souvent. Là.
Bon, alors, ça serait peut-être une bonne habitude à reprendre parce que ça, on veut pas les salles de cinéma ferment. Ça serait vraiment tragique.
Il y en a que, c'est ça, le nombre de salles de cinéma, évidemment, a baissé. Par exemple, on pense à Guzzo, là, les cinémas Guzzo qui avaient fermé leurs portes. Certains ont été rouverts sur une autre bannière, là, Ciné Star Z. Mais le nombre de cinémas est en baisse, puis ça reflète un peu ce que les consommateurs.
Ouais, ouais. Et quand on va voir un film et qu'on se retrouve 3-4 dans la salle, là, c'est un peu triste aussi. Bien, merci, Michel.
C'est ça. Par contre, ah, ben, OK.
Oui, allez-y.
Ben, rapidement, je veux dire, je suis d'accord avec vous sur le cinéma, mais ce qu'il y a de bon avec les plateformes de streaming, c'est que ça ouvre un large auditoire. Puis ça permet, certaines vont financer des productions québécoises. Là, puis je pense à la série là, de la quincaillerie joyale.
Oui, la vitrerie joyale de Martin Matt.
Pas quincaillerie.
Qui est sur Prime Vidéo.
Exactement, mais selon Martin Matt, là, j'avais vu une entrevue avec lui, il disait qu'il y avait eu des moyens très importants là, pour faire sa série d'Amazon Prime. Donc ça, c'est comme le pendant positif de ça, c'est que ça ouvre à... ça augmente l'auditoire, ça apporte plus de ressources.
Oui, oui, on pourra en discuter.
Pour faire certains produits chez nous, donc c'est pas tout noir. Là,
non, il y en a qui trouvent ça dommage que ça soit sur Prime Vidéo, mais on pourra pas s'étendre sur le sujet pour aujourd'hui. Non, merci.
Je pense qu'on avait un peu parlé peut-être. Là,
mais oui, mais il faudrait dire que Vitrerie Joyale vaut le détour et 100
c'est
fois plutôt qu'une. Merci, à la prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Tu sais, je n'ai jamais été comme les autres. J'ai toujours pris le temps qu'il me fallait. Je suis allée plus loin que je pensais. Tu sais, je suis la reine dans mon propre royaume. J'ai bâti ce palais de mes deux mains. Le bonheur ici ne s'en va jamais. Personne n'était jamais entré au-delà de la porte que je laissais, à demi ouvert, à demi fermé. Tu sais, le bonheur ici ne s'en va jamais. Que j'aime ont voulu me protéger. Moi je fabriquais le piège pour te charmer. J'ai tout fait comme il faut pour qu'on s'aime.
Comme on s'aime.
Toutes les lumières seront allumées dans le grand manège, aux abords du ciel étoilé. Toutes nos pensées seront alignées.
les mots, je t'aime, le cœur léger.
C'était Fanny Bloom et sa chanson « Piège à charme ».
Oui, une chanson tirée de la série télé charmante, d'ailleurs, Annie et Joey. Depuis le 1er jusqu'au 7 juin se déroule la 30e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel ». Et pour en parler, on reçoit, elle est avec nous en Zoom, Rosalie Taillefer-Simard, qui est co-porte-parole de cette édition 2026. Bonjour, Rosalie.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va. Merci d'être avec nous, Rosalie. Vous avez accepté d'être l'une des porte-parole de la 30e Semaine québécoise des personnes handicapées. Pourquoi?
Oui, mais moi, j'ai tellement plaidé pour moi de continuer à sensibiliser la population à la réalité des personnes handicapées. Parce que, honnêtement, mais moi, je suis une personne malentendante, parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Puis, je veux tellement aider aussi les personnes qui sont comme moi, qui me ressemblent. Je trouve que même après 30 ans, parce que cette année, ça fait 30 ans de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Puis, pourquoi qu'on continue? C'est parce qu'il y a encore des inégalités. Des inégalités. Alors, c'est pour ça qu'on continue à en parler, parce que on s'améliore tellement depuis 30 ans, mais il y a encore des choses à faire. Mais il y a tellement de points positifs, là, comme la population. Je trouve que ils mettent plus à l'avant les personnes handicapées. C'est comme, par exemple, à la télévision, on en voit plus. C'est comme dans les emplois aussi, on en voit plus. Mais il y en a pour certains que c'est difficile à trouver un emploi. C'est pour ça qu'on continue toujours d'en parler, parce que ça peut changer les choses.
Et vous dites qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans le milieu de l'emploi. Qu'est-ce qui reste à faire d'essentiel, Rosalie?
Il y a aussi le côté aussi... ceux qui font de la construction, ceux qui préparent les plans de toutes sortes de projets de construction, mais ça, c'est important aussi de penser le plus possible à l'accessibilité. Comme par exemple, les parcs, il y en a qui sont pas accessibles. C'est sûr que je suis maman aussi, là. Fait que quand je me promenais en poussette, je voyais ça roulait pas dans le sable. Puis les copeaux de bois, puis tout ça, c'est vraiment pas évident. Fait que je pensais aux personnes en fauteuil roulant. Ça doit être difficile, tu sais, d'accompagner des enfants dans un parc. Ça, je trouve que c'est un exemple aussi qu'il faudrait améliorer. C'est comme au Centre de la nature à Laval, il y a comme un tapis, comme un caoutchouc, c'est extraordinaire. J'adore ça, mais je sais qu'il y en a à Montréal aussi, mais il y en faudrait plus.
Aussi. On en trouve aussi sur certaines plages. Et Rosalie, cette année, le thème, c'est quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel. D'ailleurs, on a des publicités aussi à la télévision qui met de l'avant ce thème-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème?
Mais en fait, moi, je veux pas qu'on s'arrête sur la première image d'une personne en situation de handicap. Il faut aller au-delà de cette première image-là. Parce que des fois, on peut regarder le physique, mais non, cette personne-là a des capacités, a aussi, bien sûr, des besoins, mais on peut demander des questions. Faut pas se gêner de demander des questions à la personne pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour combler tes besoins, pour que ce soit plus facile, pour enlever des embûches, puis tout ça. Puis moi, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup quand j'ai travaillé chez Dessert dans le passé, la gérante, elle m'avait dit, Rosalie, qu'est-ce qui est difficile pour toi? C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ajuster par rapport à toi? Et ça, là, c'était un cadeau pour moi, là. Puis j'ai dit, moi, le téléphone, des fois, c'est plus difficile à comprendre, surtout quand il y a des personnes, surtout des messieurs, je sais pas pourquoi, mais les messieurs, les hommes, là, ils ont une voix plus grave. J'ai plus de misère à comprendre. Puis aussi, il y en a qui parlent vite, il y en a qui parlent pas assez fort. Donc, je voulais pas trop en répéter les clients. Mais justement, elle dit, regarde, Rosalie, tu ne prends pas les appels. Là, là, on est une équipe ici, là, puis on va travailler ensemble pour s'entraider.
Oui.
C'est ça qu'il en faudrait plus partout, là, justement.
C'est le mot clé, hein, ensemble.
Oui, puis je connais une personne qui est non-voyante, puis ça a tellement été long avant qu'il trouve un emploi. Mais pourtant, il y a tellement de potentiel, cette personne-là, je me dis, oh mon Dieu, moi, je l'engagerais tout de suite, là.
Alors, faut pas être gêné d'aller vers les personnes en situation de handicap pour poser des questions, pour demander si elles ont besoin d'aide. Et quand on est une personne en situation de handicap, faut pas non plus être gêné pour prendre sa place.
Oui, exactement. Puis, tu sais, nous aussi, de notre côté, là, les personnes vivant en situation de handicap, c'est important aussi d'être bien dans notre peau. Parce que quand on est bien dans notre peau, quand on accepte notre différence, ça change tout, selon moi. Parce que comme ça, on peut vraiment, dire sans problème c'est quoi notre handicap. T'sais, moi, quand je me promène, là, quand je vais à la pharmacie, je dis, tu sais, je suis malentendante. Puis je leur dis aussi c'est quoi mes solutions aussi pour aider les autres aussi, à savoir comment réagir avec moi. Puis je pense que ça enlève les malaises. Puis aussi, ça sensibilise aussi ces personnes-là. Ça m'en rend compte vraiment, mais je pense que c'est important d'être bien. Puis de parce que j'ai déjà entendu une personne qui me dit, oh, je suis tannée de dire mon handicap tout le temps, de répéter tout le temps. Oui, mais malheureusement, ça fait partie de nous.
Mm-hmm.
Et ça fait partie de nous. On n'a pas le choix de dire c'est quoi notre situation. Puis comme ça, après, c'est tellement plus facile. Quand tu l'acceptes, là, c'est incroyable. Oui.
Oui, de l'accepter, d'être bien dans sa peau, ce sont des défis pour tous les êtres humains de la planète. Hein? Mais j'imagine que pour les personnes en situation de handicap, c'est encore plus exigeant là, comme défi à relever. Mais l'entourage compte aussi. Hein? J'imagine, vous êtes né dans une bonne famille qui a cru en vous depuis le début et ça doit aider.
Ah, vraiment, moi, j'ai une famille extraordinaire. C'est mes parents, ils ont tellement... Tu sais, je dirais, là... Ils ont tellement valorisé nos talents, nos forces. Puis c'est ça qui fait qu'on a tellement plus confiance en soi. C'est pour mon frère et moi, je veux dire, là.
Mm-hmm.
Puis je trouve tellement que c'est ça qu'il faut. Il faut valoriser les forces des autres. Au lieu de juste se baser sur les points faibles de la personne, on a tous des points forts, des points faibles de toute façon. Fait que... comme ça.
Aussi bien s'accepter tel qu'on.
Dans notre famille, on est en majorité des personnes sourdes. T'sais, là, comme moi, je suis une personne sourde, mais malentendante quand j'ai mon implant. Là. Mais aussi, il y a mon frère qui est comme moi, sa blonde, elle a des appareils auditifs. Puis mes deux nièces aussi sont sourds, ils ont les deux implants des deux oreilles. Ça se passe super bien. Puis ma fille, on l'a su quand elle avait un mois qu'elle était entendante, puis on était toutes bouche bée parce qu'on n'a jamais connu ça, un bébé entendant dans la famille.
Aïe, aïe. Puis pour elle aussi, c'est une adaptation, j'imagine, d'avoir une mère qui est malentendante, mais vous entendez bien grâce à des implants cochléaires.
Oui, puis j'en reviens pas. Elle a deux ans et demi. Puis elle comprend déjà que j'entends pas aussi bien qu'elle.
Ah ouais.
C'est incroyable. Puis, oh mon Dieu, j'ai des frissons quand j'en parle. Mais ça me touche tellement parce que cette personne-là, ma petite fille, elle s'appelle Adélie. Puis, tu sais, j'en viens pas. C'est comme le matin, là. Mais quand je me réveille, j'ai pas mon implant. Ben, j'entends pas. Fait que elle me parle, mais je viens à Adélie. Maman, elle est sourde. Je t'entends pas. Il faut mon implant. Elle dit, regarde, attends, je vais aller chercher. Fait que là, elle va chercher mon implant, puis elle me l'apporte au lit.
Oh wow. Alors, Rosalie, faudrait prendre exemple sur la relation que vous avez avec votre fille, faire preuve d'ouverture et de compréhension et d'une bonne communication. Ça fait partie de la solution. émission. On doit se laisser tout de suite. Ça a été un grand plaisir de vous parler, puis on espère le refaire bientôt. Portez-vous bien. Bonne semaine.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je suis un fils, un frère, un père, un chum, un bum. Je suis un ami, un mari, un amant, un esti. Je suis un esti. Je suis un tof, une tache, un roux, un flash. Je suis un tripeux, un têtu, un ravoir, un perdu. Je suis un perdu. Mais j'ai pas encore fait le tour. Hey, je lance des flèches au soleil. Jamais moins con que la veille. C'est pour mes niaises pareilles. Je suis un fils, un frère, un père, un chum, un homme. J'avance, je trébuche, je m'écrase, je t'enlace, je résiste. Mais j'ai pas encore fait le tour. Hey, je lance des flèches au soleil. C'est pour mes niaises pareilles. Jamais moins con que la veille. Et quelque chose se réveille.
Des flèches au soleil, c'est une chanson de Vincent Vallière.
Et on s'en va, non pas en Gaspésie, en Montérégie quelque part, en Montérégie, pour parler littérature avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, deux livres aujourd'hui, L'adieu au bateau aux éditions Le Méac, et puis l'autre c'est Le printemps en novembre de Carl Leblanc.
Oui, deux auteurs de la Gaspésie, nés en Gaspésie. Parce que jeudi, ce sera la journée de la Gaspésie, alors j'ai eu envie le lien et de surtout proposer deux livres qui parlent de la Gaspésie, parce que parfois, bon, tu peux être né en Gaspésie et parler de toute autre chose. Ouais. Et dans ces deux cas, ben, la Gaspésie est très présente. Alors, L'adieu au bateau, c'est un livre de Joanne Fournier qui est comédienne, elle a fait du cinéma, des documentaires, entre autres, et elle est née à Matane en 1954. Puis, elle a quitté Matane pour aller faire sa vie, sa carrière. Puis un jour, elle a retrouvé l'amour de sa vie et retourné finalement vivre à Matane. C'est une très belle histoire romantique, tout ça qu'elle a raconté dans L'état de nos routes, paru en 2021 chez Le Méac dans la petite collection blanche. Et la vie a fait que, il y a quelques années, il y a pas très longtemps, son mari est décédé d'une pneumonie. Oh. Et elle a donc, suite à ça, décidé d'écrire. Et c'est ce qu'elle nous dit en entrée de jeu dans le livre. Mon amour est mort dans mes bras un soir de janvier 2023 dans une chambre à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Matane. Alors là, elle a dit que pour un an après, ça fait un an de ça, elle va aller s'asseoir à la gare pour commencer l'écriture. Et je la cite. « Je suis allée m'asseoir au bout du couloir dans la gare vide devant la mer d'hiver. J'ai regardé le traversier quitter le port, s'en aller vers la côte nord, vers le gris du ciel. Et j'ai commencé à écrire pour consigner cette année-là, qu'elle se fonde dans le brouillard, qu'elle devienne le large. Puis elle dit, quand je serai prête, je ferai l'adieu au bateau. Le temps venu, je marcherai jusqu'au bout de la jetée et je regarderai le bateau partir comme s'il s'emportait à jamais, s'il emportait à jamais cet homme que j'ai aimé. Alors, le temps s'écoule au fil des pages sur l'année qu'elle vient de vivre et chaque saison ramène des réminiscences. Par exemple, on faisait toujours ça quand c'était le temps de rentrer le bois. Quand on faisait ça, on aurait fait ça. Puis lui, par exemple, au printemps, elle dit, il aurait nettoyé ses soies, choisi ses mouches, préparer son matériel pour la pêche au saumon. Alors, tout ça, comme elle dit, c'est comme une première fois qu'elle revit, mais seule. Ça fait partie des étapes du deuil. Et c'est pas un livre, là, triste. Non, pas du tout. C'est pas larmoyant. Au contraire, je dirais que la lecture de ce livre-là nous fait comprendre comment la vie est précieuse. Et puis, elle dit, elle s'imagine aussi qu'est-ce que ça aurait été s'il n'était pas mort. Elle dit, quel vieux couple serions-nous devenus? Vieille femme qui devra apprendre à se débrouiller seule. Elle dit, nous nous aimions de mieux en mieux. C'est ce qui est le plus cruel. Effectivement, cet homme-là, elle l'a connu jeune. Ils ont fait leur jeunesse ensemble, je veux dire ça. Puis après, chacun a fait sa route. Et la vie les a réunis. Puis malheureusement, la maladie est survenue et puis a fait en sorte qu'elle a dû prendre soin de lui. Et elle nous raconte tous ces petits détails au fil des jours, des tâches difficiles, parce que vivre à Matane, c'est pas comme vivre en ville. Il y a des tâches quand on vit dans, une espèce de maison qui est fragile, avec un puits, donc la neige, la corde de bois, tout le travail que ça nécessite. Elle dit que c'est tout ça qu'il faut apprivoiser, puis elle n'est pas chez elle, elle est dans sa maison à lui, elle se demande si elle va rester là. Elle fait le ménage de tous ses biens, puis c'est comme une page qu'elle tourne finalement, un très, très beau livre, plein de tendresse, plein d'amour. C'est pas un larmoyant jamais.
C'est très court, hein, 70 pages?
Ah oui, c'est une plaquette, mais c'est dense.
Oui, une plaquette dense.
Toute l'année jusqu'au Noël suivant, où elle raconte que le dernier Noël qu'elle a vécu avec lui, la dernière chose qu'il a fait avant d'aller en ambulance à l'hôpital, c'était de faire le sapin de Noël. Donc, c'est comme ça quand on a un deuil, hein. Il y a plein d'événements qui nous ramènent à des événements vécus ensemble que maintenant on doit vivre seul. Donc, très, très beau livre qui parle aussi ben, de la famille, des amis, de ce que c'est vivre à Matane, de traverser l'hiver. Alors, ça peut peut-être donner le goût d'aller à Matane et puis surtout de lire le livre.
L'adieu au bateau par Joanne Fournier. Et vous parliez de son livre où elle raconte ses retrouvailles amoureuses, c'est l'état de nos routes, c'est bien ça?
Oui.
Aux éditions Le Méac aussi?
Oui.
OK. On passe maintenant à Karl Leblanc, qui est connu, lui, Karl Leblanc, et ben plus, en tout cas, en ce qui me concerne, je connais Karl Leblanc et non Joanne Fournier. Le printemps novembre aux éditions XYZ. Après, 100, après 70 pages pour le livre de Joanne Fournier, ici, c'est 170 pages.
Exact. Dans la collection Romain Michel, ce livre-là, j'ai appris qu'il est finaliste au prix littéraire France-Québec 2026. Karl Leblanc est né en Nouvelle, c'est dans la baie des Chaleurs. Et puis, bon, ben, il a été journaliste, il a travaillé dans le domaine du documentaire, puis il a publié des livres. Moi, je l'ai connu avec Artefact, qui avait été finaliste au prix des collégiens. Et qui a fait l'objet d'un film aussi sur le cœur d'Auschwitz, qui est très, très beau. Et ce livre-là aborde, en même temps qu'il a sorti un film sur le sujet à l'automne dernier, « Jour de référendum », c'est paru à l'automne 2025, qui raconte finalement le 15 novembre. Ben ici, on est dans un roman. Des romans jusqu'à un certain point, parce qu'il est question, évidemment, d'une histoire d'amour à travers tout ça, de la jeunesse de l'auteur peut-être, mais en tout cas de jeunes qui ont cru au Québec en 1976 et de la mémoire qu'on a de ce jour-là. Alors, comment c'est fait? C'est très bien construit. Premier chapitre, 17h45, on est à Montréal, un soir de novembre 2006, donc 30 ans après les événements du 15 novembre. Et Étienne Vallière, qui est le héros de l'histoire, il s'en va à un lancement d'un documentaire sur l'élection de 1976 à Montréal. Il n'a pas trop envie d'être là. Il n'aime pas trop ça, les lancements avec les personnalités politiques et tout ça. Mais il est ami de celui qui a fait la musique du film, qui s'appelle Xavier. Fait que par solidarité pour son ami, il va y aller. Mais il trouve le temps long. Puis on sent que lui,
il est très désabusé par rapport à ce rêve du Québec là, des années qu'il a passé alors qu'il était enfant. Alors, je le cite, « Étienne avait tué l'ancien rêveur, l'adolescent fasciné de 1976, le collégien engagé de 1980, le jeune homme qui avait voté oui à l'indépendance en 1995, le nationaliste persistant de la dernière décennie. Aujourd'hui, on le sent résigné. » Donc, il est dans la salle, puis il va, au fil du roman, assister à la projection de ce film-là sur cet événement-là. Mais en alternance, au chapitre 2, là, on est en 15 novembre 1976, dans son village, il y a 30 ans, il a 16 ans, et il est avec des amis qui sont péquistes, ses parents, lui, sont des libéraux, et là, finalement, il est un peu entre deux chaises, puis lui, il est amoureux de Julianne Casey, qui est sa voisine, qui a 18 ans, puis qui vote pour la première fois, et il attend de cette journée-là une affaire extraordinaire qui ne se passera pas, parce que Julianne, elle n'est pas là. Puis pourtant, elle l'a embrassé sur la bouche la veille. Oui, parce qu'il est venu une personne qui se présentait au PQ, qui est venue dans la région. Et puis, ben là, elle était tellement énervée, excitée, qu'elle l'a pris dans ses bras, puis elle l'a embrassé. Là, lui, il est tout, excité. Il s'imagine qu'il peut être son chum, mais elle n'est pas là. Elle est absente. Et au chapitre 3, ben, on retourne dans la salle de projection à Montréal, et on alternance comme ça, et il y a toujours l'heure à une minute près. Comme par exemple, le chapitre 1, ben, c'est 17h45. Le chapitre 2, c'est 18h. Puis après ça, on va faire toute la soirée jusqu'au lendemain matin. Tout se déroule en une journée. C'est très intéressant d'aller d'une place à l'autre.
On est tenu en haleine.
Oui, puis ce que le Étienne Vallière adulte voit alors qu'il a 46 ans à l'écran, c'est des mauvais souvenirs jusqu'à un certain point parce que ça s'est pas passé pour lui. Julianne n'était pas là. Et en même temps, le Québec n'a pas vécu ce qu'il voulait aussi. Fait qu'il y a une belle métaphore de tout ça.
Déception au carré.
Exact. Et tout est en dualité. En ce sens qu'on est à la fois en 2006 et en 1976. On est dans la voie de cet enfant-là qui est que 16 ans. Puis après ça, celui qui a 46 ans qui est très différent. On est en région, on est à Montréal, on est dans le documentaire, on est dans la fiction. Donc, c'est bien fait. Et ensuite, il y a une intrigue, parce qu'on se dit, ben, où est-ce qu'elle était, Julianne? Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi ses parents, lui, sont libéraux? Pourquoi les autres à côté sont des nationalistes, mais vraiment tellement que M. Casey, le père de Julianne, va avoir un malaise cardiaque pendant la soirée des élections. Bref, puis c'est à une époque aussi où c'était la télé et la radio qui nous donnaient les informations. Là, Internet n'existait pas, on n'était pas là. Et il y a tout le contexte. Alors, par exemple, dans la chambre, il y a un vinyle de Supertramp. Il est allé voir le show d'Harmonium. Les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Il y a eu les Olympiques cette année-là, 1976. C'est une année très importante. Et sans doute que quand il y a eu 30 ans en 2006, on a rappeler cet événement-là, mais cette année, en 2026, c'est 50 ans. Donc, Carl Leblanc est venu en Gaspésie présenter ce film-là qu'il a fait et ce livre-là qu'il sortait presque en même temps pour parler de finalement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont encore vivants en Gaspésie, qui, entre autres un monsieur Marquis qui a été élu dans le comté de Matapédia, je crois, qui était là. Et puis à côté, il y avait comment il s'appelle, le Gérard Delévesque, qui lui était libéral, qui était élu dans le comté voisin. Donc, tout ce monde-là est encore très vivant et très dynamique dans la région. Et puis là, qu'est-ce qu'il en reste? Il dit, pendant que lui est assis en train de regarder ce documentaire-là avec plein de têtes blanches qui ont vécu ça il y a longtemps, dehors, à Montréal, il y a des gens de toutes sortes de pays qui continuent leur travail, qui n'ont aucune idée de ce que c'est le 15 novembre 1976 et pourquoi tout le monde s'énerve avec ça, parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils ne connaissent pas cet aspect de l'histoire. Alors, ça, c'est bien intéressant, puis je ne dis pas comment tout va se dénouer. À la fin, on comprend tout où était Julianne et tout ce qui s'est passé. Ça, c'est un très beau fil et c'est très émouvant. C'est très, très réussi. Moi, j'ai lu plusieurs livres de Carl Leblanc. Je pense que je les ai tous lus. Mais celui-là, c'est vraiment celui que j'ai préféré parce que je trouve qu'il a réussi à mettre des moments qui sont vrais. On reconnaît des députés là-dedans, on reconnaît des personnalités qui étaient là, mais en même temps, il y a un peu de fiction, il a enrobé tout ça, et je pense que c'est comme vraiment son expérience de cinéaste, son expérience de documentaire qu'il a fait dans le passé, puis son expérience d'écriture, parce qu'il écrit très bien. Il y a des phrases sur lesquelles on s'arrête en disant « c'est donc bien dit ça ». Alors, c'est 170 pages, mais c'est très dense. Et on s'ennuie jamais, parce qu'on passe d'une époque à l'autre, d'un milieu à l'autre. Et puis, tout se dénoue à la fin. Et c'est très beau. En tout cas, moi, je le recommande fortement, qu'on soit gaspésien ou pas. Il faut connaître qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là, et c'est très bien raconté.
Alors, le personnage s'appelle Étienne, mais derrière Étienne, il y a Carl Leblanc.
Oui, beaucoup, je pense. Ouais. Oui. Et puis, le village n'est pas nommé, mais on sent qu'il est dans la baie des Chaleurs, parce qu'il nomme un peu les députés qui sont élus autour. Et puis, la différence que c'est de vivre en région par rapport à vivre à Montréal à cette époque-là, en 1976, c'est très, très important aussi. Alors, c'est une image de la société québécoise, je pourrais dire, quand on a tout lu ça, là, et on comprend que ce peuple-là qui a rêvé à ça a été très déçu par après. Il va arriver en 1980, 1995. Et puis, c'est une réalité avec laquelle on vit aujourd'hui, mais que je pense que c'est important de transmettre à la jeune génération qui n'a rien vécu de ça. Alors, moi, je le ferai lire au cégep, ce livre-là. Je trouve que c'est un beau portrait de notre histoire.
Surtout en cette année du 50e anniversaire. Voilà. Le printemps en novembre, très beau titre aux éditions XYZ dans la collection Romanichel par Carl Leblanc, né à Nouvelle, en Gaspésie, comme l'autrice juste avant qui est née en Gaspésie, elle, à Matane. Et bien, vous n'êtes pas née là, mais vous êtes une Gaspésienne d'origine, Anne-Marie?
Bien, je dirais que je suis néo-gaspésienne, on peut dire ça, oui.
Pas d'origine, d'adoption.
D'adoption,
oui. Oui, oui. Alors, bien, je vous souhaite une belle journée de la Gaspésie. Hein. C'est le 4 juin, comme vous le disiez en entrée de chronique.
Tout le bleu, ce jour-là.
Vous allez être habillée en bleu, vous dites?
Oui, c'est comme une espèce de je sais pas, d'idée là, qu'ils ont mis en place. Tous les gens s'habillent en bleu et se photographient comme quoi ils sont fiers d'être en Gaspésie. Alors, il y a des photos sur Facebook partout, des gens habillés de bleu ce jour-là. Chaque année, c'est le premier jeudi du mois de juin. C'est ça.
Bon, alors, nous allons surveiller ça de près en pensant à vous notamment. Merci, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Courir, passer courant, nous pas gain temps.
Étoiles Cap Filées, une chanson de Rebecca Jean. En fait, c'est les étoiles filantes des Cowboys Fringants.
Ah oui, vous l'avez reconnue, j'imagine.
Oh oui.
Une nouvelle fleur a éclos à l'Hôtel de Ville de Sherbrooke lundi dernier, donc hier. L'œuvre collective « La vie est une fleur rare qui s'ouvre en moi » a été inaugurée pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées. Imaginée par l'artiste en art visuel Étienne Plante, cette fleur métallique de 162 cm a été conçue au bout d'une trentaine d'ateliers par une cinquantaine de personnes en situation de handicap. La fleur, qui est vraiment belle, c'est une métaphore sur la fragilité de notre condition humaine. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Elle est d'une grande beauté, oui, mais aussi fragile et éphémère. C'est Étienne Plante, artiste en art visuel, qui l'affirme. Afin d'inclure les personnes en situation de handicap, le sculpteur de métal a dû user de son imagination pour remplacer son matériau de prédilection. Il a tenté de s'imaginer comment il sculpterait sans l'usage de tous ses sens. Vous remarquerez qu'il y a des traces de pneus. C'est vraiment les traces des pneus des fauteuils roulants, des personnes à mobilité réduite de l'organisme handi-apt, explique l'artiste. On a étendu une grande plaque d'argile au sol, puis j'ai invité les personnes à rouler dans l'argile. Des mains symbolisant le langage des signes forment les pétales et des neurones rappellent les pistils de la fleur. Étienne Plante dit en riant qu'il a eu besoin d'une leçon de botanique pour imaginer son œuvre. La conseillère municipale déléguée à l'équité, à la diversité et à l'inclusion de la ville de Sherbrooke, Fernanda Luz, confie que cette œuvre s'inscrit dans la lignée du plan d'action que la municipalité propose pour inclure tous ses citoyens dans ses activités. Dès mercredi, donc demain, la fleur sera exposée à la bibliothèque Eva Sénécal. Par la suite, les apprentis sculpteurs pourront admirer leur œuvre qui les visitera à leur organisme. 6 organismes participent au projet. L'Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle, l'Association des accidentaux cérébraux, des accidentés cérébrovasculaires et traumatisés crâniens de l'Estrie, l'Association des sourds de l'Estrie, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, Estrie, épilepsie, Estrie, handi-apt. Alors, voilà pour cette nouvelle fleur que vous allez pouvoir voir très bientôt à la bibliothèque Eva Sénécal, entre autres lieux. Bravo à l'artiste, bravo pour cette belle idée.
Mmh.
Belle bimbo de Bimbo Jet.
Mathieu, vous parliez des fraises du Québec en début d'émission. La récolte des fraises du Québec sera en retard d'une semaine cette année en raison du printemps particulièrement froid, mais les gourmands qui prendront leur mal en patience auront la surprise de croquer dans des fruits encore plus sucrés. Alors, c'est une bonne nouvelle quand même, parce que les fraises seront plus sucrées. Notre saison est décalée à cause du mois de mai. À la place d'avoir une récolte dès cette semaine, il faudra encore attendre à la deuxième semaine de juin, explique Jasmine Sauvé, qui est directrice générale de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette émission de ce 2 juin 2026. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une très agréable journée en cette belle journée ensoleillée. Merci Mathieu Tessier qui salive déjà en pensant aux fraises sucrées qui s'en viennent. À demain.